7h, 9h, plus près de toi.
Bonjour, bonjour, ici Marie Misset, aussi ici François Rollin qui arrive doucement avec un café. Un tout petit peu moins ici, mais ici quand même Édouard Baird. 20 juin, il fait encore très chaud, les gens sont encore habillés ici, mais peu. Qu'en est-il à Tokyo? Vous allez le savoir extrêmement rapidement, puisqu'on a envoyé un petit correspondant heure et météo à Tokyo. Il s'agit d'Édouard Baird. Bonjour. Bonjour, Édouard.
Vous avez vendu la mèche. Bonjour, Marie.
Oui, c'était
en effet,
pas...
j'ai été envoyé par Radio Nova juste pour être au courant de la météo du temps. Je suis à Tokyo pour une semaine et je me balade, je flâne des quartiers de nuit un peu inquiétants et bizarres, de Roppongi jusqu'aux quartiers plus calmes et quasi provinciaux d'Akazaka. Je balade mes vieilles gens et mon regard affûté du palais impérial, du cœur historique de Marunouchi, de Ginza jusqu'aux quartiers plus troubles de Shinguya et de Shinjuku. Je suis épuisé par tous les mots japonais que je viens de dire en cette minute.
Vous avez tout fait ça déjà, hier, depuis hier.
Tout en imagination, en livre, en journaux, puis j'ai un souffleur aussi, ici, qui me donne des noms en ou et en ya. Et c'est très dépaysant, parce qu'il y a effectivement ces grands quartiers d'affaires qu'on imagine, ce côté un peu Times Square, avec des néons partout, et puis au milieu du... Vous rentrez dans une rue, et là, il y a un petit village de toutes petites maisons, avec beaucoup de bars, tenus par des mamachans, qui sont des dames assez âgées, qui vous reçoivent dans un bar de 4 places, et qui vous font la conversation, vous donnant à manger, et parfois à boire.
Et vous parlez bien japonais ?
C'est un secret. Je sais dire sayonara et je peux vous dire que ça m'aide beaucoup. À tout de suite.
Plus près de toi.
Plus près de toi.
Plus près de toi.
Très, très près.
Plus près de toi.
Très, très, très près.
C'est le titre de l'émission.
Vous avez eu l'heure, non ?
Juste avant d'aller à l'école, c'est parfait.
7h, 9h, plus près de toi.
7h, 9h, Édouard Baird. Pouette, pouette, la hurlette, ta gala, la queue du rat.
Je vous jure, ça vaut le coup.
Un dispositif très raffiné aujourd'hui, puisqu'autour de vous, Marie Misset, il y a vraiment la crème des chroniqueurs, des penseurs de l'époque. Il y a François Rollin qui est à votre droite.
Oui, il est en face de moi, plus exactement. Pour l'instant, il ne parle pas.
Si, pour l'instant, je parle.
Alors,
on ne m'écoute pas.
Non, c'est pas ça, François. Avant que vous disiez que vous parliez, vous ne parliez pas.
Si, mais je parlais en moi-même.
Et voilà. Vous avez parlé pour dire que vous parliez. C'est la première fois qu'on vous a entendu parler. C'est le moment où vous avez dit « je parle », soyons précis.
Bon, dites voir, Edouard, puisque vous avez le cœur à la polémique, quelle heure est-il chez vous ?
C'est vrai que vous ne nous avez donné ni l'heure ni la météo, au final.
Il est 2h de l'après-midi, il est même 14h02.
Eh bien, il faut régler vos pendules, mon vieux, parce qu'en réalité, il est 7h03.
Vous voyez, c'est très franco-français, ça, François. Je veux dire, vous n'êtes pas le centre du monde. Le monde est vaste, la Terre tourne, vous savez, vous êtes au courant.
Alors, qui est le centre du monde ?
Alors, ce n'est pas quelqu'un. Il y a peut-être un créateur. On va revenir sur... Alors, est-ce une sorte de sang de noyau en fusion ? On en reparlera tout à l'heure avec des experts en géologie et en fusion des noyaux. Y a-t-il un créateur ? Est-ce que tout ça est arrivé en génération spontanée ? On en parlera avec des représentants des trois monothéismes.
Très bien, ça va être bien ce que vous faites.
On a Laurent Petit qu'on va appeler tout à l'heure de la psychanalyse, l'Agence nationale de psychanalyse urbaine qui va nous analyser le Japon. Et puis nous, on va avoir un peu ici des spécialistes, des gens qui vont nous raconter un peu la ville et le pays. Avant de recevoir demain Isabelle Huppert et Catherine Deneuve pour ce festival de cinéma.
En même temps
français qui a eu... Non oh. Pas en même temps. C'est de diplomatie, vous expliquerez pas. Et François, quel est votre programme aujourd'hui au sein de Plus près de toi ?
Alors, j'ai l'intention d'animer l'ensemble de l'émission dans un esprit d'équipe et globalement dans un bon esprit, dans un esprit constructif.
Donc vous avez décidé, aux côtés de Marie Misset, d'animer la tranche horaire 7-9 sur Radio Nova.
Oui, avec deux adjoints de taille, en la personne d'Armel, qui est un des meilleurs réalisateurs de radio, je crois, d'Europe. Et de Thierry Paret, qui est le journaliste, qu'on peut dire, oui, c'est ça, on peut dire, c'est le journaliste.
Y a-t-il dans votre volonté d'animer dans la camaraderie aussi une idée de gagner des parts de marché, d'aller plus loin, peut-être d'optimiser l'audimat Nova ?
Oui, c'est ça, mais en phagocytant une des radios que je ne nomme pas, c'est-à-dire que je ne veux pas prendre des auditeurs un peu partout, je voudrais en piquer à une certaine radio.
Une radio avec laquelle vous auriez une histoire ?
Oui, c'est ça.
Ok.
Elle est mauvaise, là. Voilà, très bien. Est-ce qu'il y a du connoisseur ce matin ou pas ?
Il y a des infos avant.
On
va commencer par les infos de Thierry Barret.
C'est une tradition républicaine. Édouard Philippe a présenté la démission de son gouvernement et donc aussi du coup sa démission. Il a été reconduit à son poste de Premier ministre et il doit former un nouveau gouvernement qui sera, dont la composition sera annoncée au plus tard demain à 18h. En tout cas, une chose est sûre, Richard Ferrand n'en sera pas. Le président de la République a demandé au ministre de la Cohésion des Territoires de quitter son poste pour briguer la présidence du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale. Richard Ferrand qui est, on va dire, déstabilisé depuis quelques semaines par des révélations sur un montage financier remontant à l'époque où il dirigeait les mutuelles de Bretagne. 30 députés PS et non 29 comme annoncé hier. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il y a eu un recomptage à Mayotte dans une circonscription et la députée PS qui avait été donnée perdante d'une dizaine de voix a été finalement déclarée gagnante. Donc 30 députés PS au lieu de 29 et du coup 112 au lieu de 13 pour LR puisqu'elle était opposée à un candidat LR qui lui était donné gagnant dimanche mais qui finalement a perdu. Un bureau politique du FN, c'est aujourd'hui, ça va être très tendu, à la fois sur le fond et sur la forme, puisque Jean-Marie Le Pen compte se rendre sur place, il n'a pas été invité et il a prévu de s'y rendre avec un huissier, carrément. Les incendies...
Excusez-moi.
Mais c'est vrai, hein. C'est vrai.
Les mecs, ça fait... Pardon. Maître d'Assemblée du barreau de Paris, maître Follat, justice, ouvrez immédiatement cette porte. Oh, excusez-moi, je vois la... Je vais te faire courir, rouquin. C'est une violence incroyable avec Le Pen en train d'éructer. Je m'en souviendrai. Ça va
être... Comment enchaîner après avec ce qui s'est passé sur les Champs-Élysées hier? Heureusement qu'il n'y a pas de morts, ni même de blessés. C'est un miracle. Un homme a foncé sur un véhicule de police hier soir. Il a été tué par les forces de police. Dans son véhicule, on a retrouvé des kalachnikovs, des armes de poing, de l'explosif également. Donc c'est un miracle qu'il n'y ait absolument aucune victime. Il habite dans l'Essonne. Il est fiché S. Il était fiché S. Et donc, voilà, l'affaire s'est terminée hier soir de cette façon. Les incendies perdus au Portugal, avec toujours beaucoup de morts, et ça continue encore ce matin. À peu près 1000 pompiers sont sur place pour tenter d'endiguer ces incendies. 79 morts, c'est le nouveau bilan. C'est un bilan qui s'alourdit chaque jour de l'incendie de la tour Grenfell à Londres, et c'est un bilan qui va encore s'alourdir, qui est susceptible d'évoluer encore, c'est ce que nous dit la police britannique. La canicule, ça continue. Hier, 35 départements étaient classés en vigilance orange. Aujourd'hui, il y en a 51. On annonce des températures entre 30 et 35 degrés en moyenne. Ça ira un peu mieux sur les côtes de la Manche. Si vous cherchez un peu de frais, c'est là-bas qu'il faut aller. Et puis en basket, l'équipe de France féminine s'est qualifiée pour les quarts de finale de l'Euro. Ça se joue en ce moment. Elles joueront jeudi, soit contre l'Ukraine, soit contre la Slovénie. L'Ukraine et la Slovénie vont s'affronter aujourd'hui.
Merci d'avoir terminé sur le basket, comme vous savez si bien le faire, Thierry, pour botter en touche. C'est terrible, je ne sais pas si vous avez lu, j'ai lu un article sur cette tour londonienne qui racontait qu'au lieu de mettre de l'argent dans la sécurité incendie, de faire toutes les vérifications obligatoires, ils avaient dépensé de l'argent pour mettre une bâche pour la recouvrir, pour que ça soit moins laid pour les gens qui habitent.
Oui, parce que c'était un quartier très riche dans lequel il restait 7 tours, qui est une tour HLM. Et du coup, les riches autour ne trouvaient pas ça assez joli. Donc, ils ont entouré d'un truc plastique, en fait, qui a brûlé encore plus vite.
Il y avait un budget pour la déco, mais pour la sécurité incendie, non. Merci.
Pas de rien.
À tout de suite.
Plus près de toi.
Plus près de toi. 7h, 9h, c'est vraiment ce qui se fait de mieux en ce moment.
Cette 16 sur Nova, c'est Give It All. Et alors qu'Edouard Baird est au Japon et qu'il nous entend, on peut lancer le club des connoisseurs.
En effet, les connoisseurs, ils sont là, ils sont partout et ils sont nulle part. Ils sont à l'intérieur de nos esprits et de la culture du monde. Qui nous raconte quoi ce matin?
Ils sont surtout deux aujourd'hui, peut-être trois.
Ne le dites pas parce qu'on peut prendre plusieurs voix, vous savez.
Très bien, je vais essayer la première.
On remplace ce manque de moyens par une imagination et une énergie débordante.
François Rollin. Oui.
François Rollin.
J'ai
là.
D'abord
François
Rollin. Une information sur laquelle j'aimerais vous faire réagir.
Ah, très bien. Alors là, j'adore réagir.
La plus ancienne.
Pardon, Marie, mais depuis que je suis tout petit, c'est le truc que je préfère.
Réagir.
Avec les femmes.
Mais réagir. Vous avez déjà bien réagi à l'annonce que vous deviez réagir, François.
Oui, déjà.
Belle réaction.
Alors, l'info est la suivante. La plus ancienne statue du monde a été sculptée avec des dents de castor.
Oh la vache.
C'est-à-dire, est-ce que ce sont des hommes qui ont enlevé les dents du castor et qui ont fabriqué un outil pour sculpter, ou c'est le castor qui a sculpté la statue?
La matière en est de dents de castor.
Ah, d'accord, alors c'est petit.
Peut-être qu'on a assemblé des dents de castor ensemble.
Avec de la colle UU. Pardon, je fais un petit peu de publicité. Avec de la colle UU. Juju, ça colle très bien. Hein, attendez, coller dedans, pardon Edouard, hein, mais je vous interromps, mais pour coller dedans, Juju, c'est top. Hein.
Non, mais je sais que vous touchez Juju. La question n'est pas là, François. La question, c'est Marie-Missé, qu'est-ce que vous voulez nous dire, vous voulez
rien,
dire
j'avais vraiment envie que François Rollin réagisse sur cette information. Maintenant, mais, c'est oui, fait.
Faites ça en dehors des heures d'antenne, voyez-vous, allez déjeuner à la cafétéria. Et là, pour le moment, moi, je suis auditeur lambda, bon, il se trouve que je suis à Tokyo, mais je ne comprends rien.
Ok, j'ai une vraie info.
Qu'est-ce qu'on a fait autour de ces dents de castor? Est-ce que c'est peut-être un castor qui a été fossilisé, qui s'est statufié par la force des choses et le pouvoir du temps? Ou est-ce que simplement on se dit, tiens, si je mettais des dents de castor dans mon bronze ou alors dans un truc en terre?
Et j'en ferai une sculpture. C'est plutôt la seconde solution.
En tout cas, ça nous rappelle que en région parisienne, il y avait autrefois beaucoup, beaucoup de castors.
Hein, non, ça ne me rappelle pas ça du tout.
Mais si, parce que c'est le bévère, la bièvre. La bièvre, c'est le castor. Donc tout ce qui est la bièvre, c'est du nom du castor. Il y en avait partout, des castors. Et maintenant...
Qu'est-ce qui s'est passé?
Eh bien, l'homme les a exterminés pour leurs dents et pour leur fourrure.
Et ben voilà. Alors, quand un castor... On fait un barrage, hein. Donc ça ralentit l'eau et ça lui permet de faire son nid, parce qu'il fait un nid, le castor. Mais c'est un nid qui est dans l'eau, parce qu'il vit à moitié dans l'eau, à moitié dans l'air.
Ouais. Enfin, à moitié... Non, c'est-à-dire, sa hutte est sous l'eau, mais lui, il peut pas vivre sous l'eau, hein. Il a besoin de respirer.
C'est ça que je n'ai jamais compris, François, c'est là où je voulais en venir. Ouais. Pourquoi est-ce qu'il fait sa hutte sous l'eau, vu que lui a besoin de respirer? Donc, dès qu'il s'endort, il fait de l'apnée du sommeil. Relève toutes les 10 minutes pour aller prendre de l'air.
Parce qu'avant, il y avait des léopards aussi en Île-de-France, et alors le castor devait se protéger des léopards.
Mais léopard fait sa hutte où il ne fait pas de barrage, le léopard.
Non, il ne fait pas de barrage. Le léopard, il gratte la terre avec sa petite papatte et il fait chier les fourmis, souvent.
Donc avant, il y avait des fourmis
avant, en Île-de-France, oui.
En Île-de-France, oui. Mais quand il y avait des léopards.
Oui.
C'est peut-être tout un écosystème à recréer. Hein. Vous savez, comme dans cette histoire.
On peut un petit peu compter probablement sur la nouvelle assemblée pour recréer ce qui est quand même le patrimoine. Hein. Castor, léopard, fourmis.
Il se passe un truc incroyable grâce à vous deux. Je me sens beaucoup moins con.
Ah, bah alors.
Sinon, j'avais une vraie info, mais peut-être que c'est pas la peine.
Si.
Allons.
Alors, il y a le Paris Air Show qui a commencé hier à Paris. Et si vous y allez, vous y croiserez peut-être des Vahana. Qu'est-ce que c'est que les Vahana? C'est le truc que Airbus veut utiliser pour révolutionner le transport urbain. Il s'agit d'un taxi sans chauffeur. Bon, tout le monde fait ça maintenant. Au revoir, Corben Dallas. Mais surtout d'un taxi volant, qui décolle à la verticale. Donc, il y a des petits prototypes à ce Paris Air Show. Et alors, comme quelqu'un le disait en commentaire Facebook de la vidéo d'Ulysse sur lequel j'ai découvert l'engin, ça va être lourd avec 2 grammes à 4 heures du matin de prendre des Vahana. C'est surtout le risque de se réveiller sans se souvenir qu'on a volé de toi en toi et sérieusement amputé de son budget transport du mois, parce que dans un futur proche, les taxis sont peut-être volants, mais ils ne seront pas donnés. Encore moins donnés.
L'avenir commence demain, c'est le titre du livre de François Rollin où il évoque ça. François, vous
pensez que dans l'avenir proche, il est fort...
On a un problème en termes de son.
Pardon, je vous parlais du livre de François Rollin, L'avenir commence demain, et on évoquait, vous parliez de sortes de boîtes qui seraient réfrigérantes, dans lesquelles on pourrait mettre des aliments et qui seraient conservées en dehors de la chaleur ambiante, surtout par exemple en juin, quand il fait très chaud.
Oui, alors là, on est sur le très long terme, on en est juste au stade de l'expérimentation, mais ça, si vous voulez, ça rejoint l'expérience de tout un chacun, qui est que le beurre, qu'il soit salé ou pas salé, lorsqu'il reste à l'extérieur, et notamment par les périodes de grande chaleur, il est moumou, ce qu'on appelle. Moumou, c'est dans le jargon des techniciens du beurre. Et donc, un certain nombre de scientifiques travaillent sur une sorte de meuble qui permettrait d'empêcher le beurre d'être moumou. Et c'est ce type de meuble que j'évoque et qui devrait, à l'horizon 2200, pour dire les choses comme elles sont, qui devrait faire son apparition dans nos foyers.
Edouard.
François, vous parliez du beurre, bien sûr, mais est-ce qu'on pourrait imaginer, dans une utopie totale, d'étendre cette invention jusqu'à d'autres aliments? Est-ce qu'on pourrait aussi, par exemple, garder de la viande plus longtemps? Puisque on sait que la viande, ça varie beaucoup plus vite à la chaleur ambiante.
Bravo pour votre esprit visionnaire, mais pour l'instant, on n'en est pas du tout là. Hein. Pour l'instant, on est sur le beurre. On n'a même pas évoqué la margarine, c'est pour vous dire.
Autant pour moi. Juste pour attester de ma présence réelle à Tokyo, un petit salut de mademoiselle Fujiwara qui est avec moi.
Mon nom est Fujiwara. Tokyo, bienvenue.
Merci infiniment, madame Allegato. On ne saurait mieux dire.
7h, 9h, plus près de toi. 7h, 9h, Edouard Baird. Plus près de toi.
plus près de toi.
Je trouve tout ça d'une vulgarité épouvantable. Ça me débecte.
7h, 9h, plus près de toi. Nova.
C'était Desmond Dekker Israelites sur Nova. On a été rejoints en studio ici à Paris par Laurent Petit. Bonjour Laurent. Mais qui va quand même nous parler de Tokyo. Parce que si vous avez bien écouté Plus près de toi cette année, vous savez que Laurent Petit est l'homme qui met les villes sur les divans via l'ANPU, l'Agence Nationale de Psychanalyse Urbaine. Et alors Laurent, aujourd'hui, on a mis un archipel tout entier sur le divan.
Oui, merci Laurent, ça va nous aider. Nous qui sommes en ce moment avec vous, mais à Tokyo, on voudrait mieux comprendre où on est.
Oui, là, on travaille, je travaille pour la branche internationale de l'ANPU, qui est la Urban Psychoanalysis International Agency, ce qui vous fait en anglais UPA. UPA pour essayer de mettre une bonne ambiance dans l'urbanisme de demain. Donc, là, concernant le Japon, ce qui est intéressant géologiquement parlant, c'est que c'est un pays à tempérament explosif, hein, qui est victime de nombreux tremblements de terre et aussi beaucoup d'éruptions volcaniques, ce qui a évidemment influencé sur le caractère des habitants. C'est aussi un territoire très émietté, plus de 8000 îles en tout, avec parfois des îles qui font que 2 mètres sur 2, mais on arrive à loger une ou deux familles, ce qui pose le problème de la place au Japon. Au point que très vite, les Japonais ont écrit verticalement pour gagner de la place, et ce qui pose aussi le problème du contrôle social, parce que pour gérer un psychisme fragmenté, un tempérament explosif, donc il a fallu mettre des régimes forts, des régimes impériaux, militaires. Et c'est aussi des gens qui sont obligés de bien s'entendre entre eux. Donc il y a une pratique de la politesse qui est frénétique, au point que les gens se saluent sans arrêt, et que le limbago, c'est un peu le mal du pays. Le limbago, c'est une maladie du dos. Quand vous baissez trop, vous avez mal. Donc, c'est aussi un pays qui est menacé de la fin du monde en permanence. Hein. Donc, ils sont tous en attente du big one, du dernier. Donc, c'est un pays qui baigne beaucoup dans la spiritualité pour se préparer à l'au-delà. Donc, voilà en gros les éléments d'un psychisme avec donc un ça géologique très perturbé qu'il faut contrôler avec un surmoi collectif très fort, pratique de la politesse. Et je veux dire que, au point d'ailleurs que le contrôle collectif est tellement fort que l'État japonais a signé jadis un accord avec les Yakuza, les gredins locaux, pour les empêcher d'utiliser les armes à feu, d'utiliser que des armes blanches, des couteaux qu'ils ont le droit d'aiguiser, je crois, une fois par an maximum. Ce qui permet de réguler la violence au niveau local et collectif.
Comme ça, il n'y a pas de mort par balle, il n'y a que des morts par couteau.
Ouais, c'est ça. Ou bien des étranglements, mais rarement, finalement.
Alors, puisqu'on parle couteau, est-ce qu'on peut parler Japon sans parler sushi, sans parler sashimi ?
Et sans parler saké, parce que c'est une façon de... C'est une sorte de soupape, le saké, c'est là-bas. Ça. Et ça crée des liens entre les gens qui supportent le même niveau de saké. Ils peuvent se saké, et d'autres qui n'y arrivent pas, ils ne peuvent pas se saké. C'est une expression passée dans la langue française, d'ailleurs. Donc voilà en gros ce que j'ai pu rassembler dans une psychanalyse express, hein, parce que tout ce que je...
Laurent Petit, merci. Comment travaillez-vous ? Vous travaillez à base de documentation écrite, vous voyagez beaucoup, ce sont beaucoup d'interviews, des rencontres. Comment est-ce qu'on peut... La partie scientifique de votre travail vient d'où ?
Voilà, je vous avouerai que j'ai travaillé dans la plus grande précipitation, donc je suis allé dans un salon du manga et j'ai rencontré un représentant en saké qui m'a fait goûter des produits, qui m'a raconté toutes sortes de légendes et c'est peut-être un peu rapide hein, finalement comme analyse.
Non, moi j'ai appris des choses. J'ai l'impression que votre métier vous fait osciller en permanence entre la dépression et le surenthousiasme. Est-ce que le Japon vous a amené ça ou est-ce que c'est un regard que vous avez sur le monde en général ?
Je suis un peu inquiet pour le monde en général, mais là, le Japon me fascine de loin. Ce que je me demandais d'ailleurs, Edouard, c'est que quelqu'un m'a prétendu, enfin ce représentant, que c'était très dangereux de dire non au Japon, toujours dans cet esprit de politesse. Et parfois, si vous demandez votre chemin à un Japonais, il ne peut pas refuser. Donc parfois, il vous emmène pendant 2 jours ou 3 jours pour trouver l'endroit, parce que vous êtes trompé de ville, voire d'île, ce qui fait que ça peut prendre 2 ou 3 jours. Est-ce que vous avez eu... Des gens vous ont dit non pour l'instant au Japon ?
Alors, pour le moment, non, mais je ne suis pas sorti de ma chambre d'hôtel, je vous rassure. Hein. Je suis entre room service et je regarde la télévision française. Je me méfie beaucoup lorsque je voyage de la sortie de la chambre d'hôtel. Je trouve qu'on a toujours tort d'explorer la ville en dehors de TV5 Monde et de sa chambre.
En tout cas, Edouard, il vous manque l'image, mais sachez que le visage de Laurent est buriné par les embruns, comme le visage des grands explorateurs, des...
Oui, ça ne m'étonne qu'à moitié. Moi, je suis avec la crème de la crème des expatriés ici, avec Ramdan Touami et avec Stéphane Chapuis, qui vont nous dire leur Japon. J'aime bien cette expression qui fait très télé ou radio à l'ancienne. C'est vraiment leur Japon du cœur, on en parlera tout à l'heure.
Oui, après les infos de Thierry Paré,
bien entendu,
par exemple.
De Thierry Paré, mais c'est plus que Thierry Paré, je crois que c'est les infos à tout le monde.
Hein. Oui, c'est les infos à tout le monde.
Merci à mon petit.
Stéphane Villeneuve est décédé à Mossoul. Le journaliste effectuait un reportage destiné au magazine Envoyé spécial sur France 2. La veille, il avait été grièvement blessé par l'explosion d'un engin artisanal qui a coûté la vie à un autre journaliste, un journaliste kurde. Deux autres reporters, dont Samuel Forêt, qui travaillait pour le Figaro, ont été blessés. Des explosifs, une kalachnikov, des armes de poing. L'homme qui a foncé sur un véhicule de la police hier après-midi sur les Champs-Élysées à Paris était équipé pour un carnage. Finalement, son acte n'a fait aucune victime, pas même un blessé. Lui, en revanche, il a été tué. Fiché S, il vivait dans l'Essonne, en région parisienne. C'est une tradition. Édouard Philippe a présenté la démission de son gouvernement au lendemain du second tour des élections législatives. Il a été reconduit dans ses fonctions. Il va donc former un nouveau gouvernement, dont la composition sera rendue publique au plus tard demain 18h. Une chose est sûre, Richard Ferrand n'en sera pas. Le président de la République a demandé au ministre de la Cohésion des Territoires de quitter son poste pour briguer la présidence du groupe La République En Marche à l'Assemblée Nationale. Donnée perdante dimanche soir, une candidate PS a finalement été donnée gagnante hier après recomptage des voix. C'est à Mayotte que ça se passe. La candidate PS était opposée à un candidat LR et ce dernier avait été donné gagnant dimanche avec 12 voix d'avance. Donc 30, c'est désormais le nombre de députés socialistes, hein, 30 au lieu de 29 du coup, et 112 au lieu de 113 pour les Républicains LR. Un bureau politique du Front National est prévu aujourd'hui. Ça s'annonce très tendu à la fois sur le fond, hein, puisque la ligne politique est très critique par de nombreux militants FN, et sur la forme également, puisque Jean-Marie Le Pen a décidé de s'inviter à ce bureau politique. Or, il n'y est pas convié. Il a prévu de s'y rendre avec sans doute un huissier. L'incendie au Portugal continue de faire des ravages. Il continue ce matin encore. 4 fronts importants sont à noter. 1000 pompiers sont sur place pour essayer d'éteindre cet incendie qui a fait de très nombreuses victimes. Le bilan est tout à fait provisoire. Il va sans doute s'alourdir puisque des villages restent encore alors qu'il est inaccessible. L'étudiant américain Otto Warmbier, rapatrié aux États-Unis dans le coma avec de graves lésions cérébrales après sa détention en Corée du Nord, est décédé. C'est ce qu'a annoncé sa famille. 79 morts, c'est le nouveau bilan de l'incendie dans la tour Grenfell de Londres. Un bilan qui est susceptible de s'alourdir selon la police britannique. La canicule, désormais 51 départements sont classés en canicule, en alerte orange à la canicule, contre 35 hier, donc ça s'étend. Si vous voulez un peu de frais, il faut aller sur les côtes de la Manche, c'est là où ce sera le mieux. Sinon, les températures vont avoisiner en moyenne les 35 degrés aujourd'hui sur l'ensemble du pays. Et puis en basket, la France s'est qualifiée, l'équipe de France féminine qui joue l'Euro en ce moment, s'est qualifiée pour les quarts de finale en battant la Grèce hier soir 70-63. Et l'équipe de France jouera jeudi contre soit l'Ukraine, soit la Slovénie.
Soit.
Merci beaucoup Thierry Paré. Merci Marie. Je voulais juste demander François Rollin.
Oui.
Oui.
Vous êtes là. Vous avez suivi les élections législatives?
Bah oui.
On en est où alors? Parce qu'ici au Japon.
C'est encore très flou. Hein. C'est encore très flou. Aucune tendance ne se dessine vraiment. On a une dizaine de forces en concurrence et qui sont pour l'instant à peu près à égalité. Donc, est-ce que la France sera gouvernable demain? Est-ce qu'il y aura une majorité? On n'en est même pas certain. Voilà l'état des choses au moment où je vous parle. Hein.
On connaît mal le système politique français, mais je crois qu'il y a les municipales dans 2 mois et les cantonales dans 8.
Les cantonales, et ensuite, les cantonales sont dans 2 mois et demi.
2 mois et demi, et il y a les élections prud'homales et puis les élections de délégués de classe qui auront lieu fin août.
Voilà, et ben, pour toutes ces élections, c'est le même paysage, très incertain. Avec donc un partage des voix, un émiettement tout à fait singulier.
Alors je parlerai juste ensuite aux enfants qui souhaitent s'inscrire comme délégués de classe. Ne vous dites pas délégués enfants en marche pour être élus plus facilement. Je ne trouve pas ça élégant du tout. À tout de suite.
On a rejoint Jack dans la rue après le Japon. Édouard Baird est au Japon. Jack souvent est dans la rue. Nous sommes partout. Jack.
Konnichiwa.
Konnichiwa,
oui.
Mais je ne sais pas Jack du tout. Ah si.
Boku no namae wa Zakari desu. Genki desu. Manga ga daisuki.
Bon, bah, je suis avec mon chroniqueur. suis avec mon chroniqueur manga de qui j'ai demandé de venir tous les matins là, pour parler du Japon. Mais ce matin, il ne va pas nous parler du manga, il va nous parler d'un conte samouraï, parce qu'il y a beaucoup de contes samouraïs.
Oui, c'est ça.
C'est Zachary, alors, bonjour.
Salut.
Alors, Zachary, tu es chroniqueur manga à Paris, c'était bien la peine que je me paie un billet d'avion pour Tokyo pour que tu en aies plus à raconter que moi. Qu'est-ce que tu veux nous dire sur les mangas ce matin, Zachary?
Bah, aujourd'hui, c'est pas un manga que je vais faire, que je vais raconter, c'est un conte samouraï.
Okay.
Le conte samouraï, c'est l'art de vaincre sans combattre.
Dis-nous nous en plus.
D'accord, bah, je vais le lire. Alors, c'est un jour, dans l'un des plus grands lacs du Japon, il y avait sur un bateau un grand samouraï, très très fort, qui racontait ses exploits à tout le monde. Donc tout le monde l'admirait, sauf un vieux samouraï qui était sur le côté et regardait l'horizon sans écouter le samouraï qui se vantait. Alors à un moment, le grand samouraï puissant lui dit « Oh, mais tu veux pas, tu penses que tu es plus fort que moi pour pas m'écouter à ce point-là ?» Le vieux samouraï répondit « Non, ce n'est pas ça, c'est juste que je n'ai pas envie d'écouter ce que vous racontez. J'ai plus important à faire. » Donc le grand samouraï n'était pas content du tout. Il provoqua encore et encore le vieux samouraï jusqu'à ce que le vieux samouraï réponde « D'accord, nous allons nous battre, mais je te préviens, je maîtrise l'art de vaincre sans combattre. » Donc le grand samouraï acquiesça et dit « Oui, c'est ça, tu verras. Avec mes sabres, tu ne pourras pas me vaincre sans combattre. » Donc il dégaina ses sabres et dit « Bon, tu es prêt? On va pouvoir se battre maintenant. » Le vieux samouraï répondit « Pas sur ce bateau, tu n'y penses pas. Pas sur ce bateau, tu n'y penses pas. C'est impossible. Nous allons tout casser ou nous pouvons nous jeter à l'eau. » Alors, il décida de descendre sur une île. Le grand samouraï descendit, dégaina ses sabres et attendit. Le vieux samouraï prit une perche, fit décoller le bateau et partit avec le bateau. Le grand samouraï fit « Que fais-tu, espèce de lâche? Tu m'avais pourtant dit que tu pourrais me vaincre. » Le vieux samouraï répond « Oui. » J'avais dit que je pourrais te battre et j'espère que tu as apprécié ma démonstration de l'art de vaincre sans combattre. Ce samouraï était l'un des plus grands maîtres de sabre de tous les temps, qui n'avait plus rien à prouver et qui avait décidé de vaincre sans utiliser ses sabres.
Zachary, ah oui, mais... Zachary,
ça va les gars ?
Est-ce que tu m'entends? Est-ce qu'il m'entend, Zachary?
Oui, il vous entend.
Alors, Zachary, c'est François Rollin qui te parle. C'est ma dernière émission de la saison. Donc, je voudrais m'offrir un petit plaisir, un peu à tes dépens. Je suis désolé, mais te voir, c'est pas méchant. Zachary, eh ben, faut aller chez le dentiste. Voilà.
Pourquoi?
Bon, il sourit, hein. Tu l'entends pas, mais il sourit.
Ouais, plein de baisers, Zachary.
Je n'ai rien compris, François Rollin. Ça me rappelle ce que vous dites, cette phrase ce proverbe camerounais que nous racontait Seydou Abacha. Si quand tu parles, on ne t'écoute pas, tais-toi.
7h09, plus près de toi.
Plus près de toi.
7h, 9h,
Édouard Baird.
Je passe une matinée, mon Dieu.
Il est 7h44 à Paris, il est 14h44 à Tokyo et pourtant des entrepreneurs français sont avec Édouard à Tokyo. Que fait un entrepreneur à 14h au Japon avec Édouard plutôt qu'être au travail? On va le savoir dans un instant.
Merci Marie, en effet vous venez de bien savonner la planche. Je serai donc avec des escrocs, je ne crois pas. Ramdan Touami, bonjour. Ramdan, vous avez débarqué ici. Qu'est-ce que vous êtes venu faire à Tokyo, Ramdan?
Ouvrir des boutiques.
Il est venu ouvrir des boutiques, tout simplement, très gentiment, très calmement, dans une idée d'échange, pas du tout pour gagner d'argent. Qu'est-ce que c'est ces parfumeries Bully que vous installez ici?
Ce sont une sorte de sélection de sublimes produits à travers, qui viennent du monde, de 54 pays. Nous vendons ça aux Japonais, ils en sont très friands.
Ils en mangent des parfums. Pourquoi vous avez choisi Tokyo? Vous avez vécu dans plein d'endroits, qu'est-ce qui se passe à Tokyo qui vous excitait spécialement?
C'est la Mecque du hanoutisme.
C'est quoi
le concept de faire des hanouts partout dans le monde. Les meilleurs sont là, on est venus.
C'est quoi des hanouts?
Hanout qui veut dire boutique en arabe. Nous sommes ici, il y a une secte hanoutiste ultra-extrémiste que je suis venu rejoindre.
C'est l'endroit de l'ouverture. Alors, il y a aussi il y a Stéphane Chapuis qui est avec nous, c'est très différent. Vous organisez des concerts ici. Vous avez commencé, vous êtes arrivé à Tokyo et après vous dites, qu'est-ce que je pourrais faire ici? Vous êtes arrivé avec l'idée de faire venir des artistes français avant d'aller à Tokyo?
Alors, je ne me rappelle plus, il y a tellement eu de choses, mais je pense que oui, d'abord, j'ai eu l'idée de faire venir des artistes français à Tokyo avec cette naïveté de croire que les Français étaient très attendus ici, ce qu'on voit un peu à travers la télé, tout ça.
En
puis,
fait, non.
Je me suis rendu. Bah, c'est plus compliqué que ça, on va dire. Il y a une image dans les années 60, 70, du Yéyé, Sylvie Vartan, même Chantal Goya qui avait son succès. Et puis, et puis après, il y a eu un passage à vide. Et là, aujourd'hui, c'est un peu plus difficile. On y arrive, hein, mais les Japonais sont un petit peu moins intéressés par la France, en tout cas. Ils ont une image de la France très artificielle.
Matérielle.
Alors, c'est vrai qu'il n'y a qu'une Chantal Goya par génération. C'est très rare de dire, après Chantal Goya, il y a eu un trou d'air. C'est très, très rare dans l'histoire de la vie musicale. Oui, Stéphane, je n'attends plus.
Mais finalement, il n'y a qu'au Japon pour avoir ce type de trou d'air, des choses complètement inattendues, c'est-à-dire des chanteurs qui fonctionnent ici, on ne sait pas pourquoi, ça, eux plus qu'un autre. Par exemple, il y a une artiste qui s'appelle Clémentine, une Française qui est la Française la plus connue, qui représente la France ici en termes de chansons françaises, mais personne, je crois, la connaît en France.
Ah, c'est ça, j'étais hier, j'étais dans un restaurant et quelqu'un m'a dit « Ah, la France, il m'a dit Clémentine !» Et j'ai eu l'ange, j'ai dit « Je ne connais pas !» Et là, il m'a regardé du genre « Mais tu n'es pas français, espèce d'accord, tu dois être moitié belgo-suisse, et bien je ne connais pas Clémentine. » Est-ce que Chantal Goya, ici, a débarqué avec ses peluches? C'est-à-dire, est-ce qu'elle a débarqué avec le lapin? Est-ce qu'elle a débarqué avec Pam Pam Poum Poum? Ou est-ce qu'elle est arrivée toute seule et vous vous rappelez de l'arrivée de Chantal Goya ici, Stéphane Chapuis?
C'est-à-dire, je ne me rappelle pas parce que je crois que j'étais très jeune. Cela dit, elle est venue à l'époque où elle faisait encore du yéyé. Mais si elle veut relancer sa carrière, effectivement, je crois, Edouard, c'est une très bonne idée qu'elle vienne avec des peluches parce que c'est le pays de la peluche ici. Vous avez probablement remarqué qu'il y a beaucoup de mascottes et qu'on aime le kawaii. Donc, pour le kawaii, c'est le mignon, c'est-à-dire, c'est tous ces petits personnages que vous voyez qui symbolisent une entreprise. Ce qu'on appelle chez nous les mascottes, en fait. Mais ici,
chaque entreprise a une mascotte, chaque équipe, tout le monde a une petite mascotte peluche ou...
Alors, même les prisons ont même leur mascotte, ce qui est quand même extraordinaire. Oui, il y a des mascottes pour des prisons. Chaque entreprise, chaque ville, chaque sous-quartier, il y a ce fantasme de mascotte.
Il faudrait que vous trouviez la mascotte de votre quartier, Edouard. Je n'ai pas réussi à dire cette phrase.
Ammoniacal va être très populaire ici. Mignon, 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 mignon.
Ammoniacal a sûrement sa chance à jouer ici, c'est clair.
Ramadan, ici, c'est quoi aujourd'hui l'image des Français? C'est plus du tout le côté haute couture, tout ça. C'est quoi l'image de la France ici?
Ça a beaucoup évolué, mais je voulais tout de suite rappeler que monsieur faisait. C'est parti de la filière niçoise, donc plein de Niçois sont ici, je n'ai jamais bien compris, il en fait partie.
Il y a des Niçois à Tokyo, il y a une filière, il y aurait donc un énorme complot mignon niçois.
Exactement, d'ailleurs moi je fais partie de la filière montalbanaise, je suis le seul représentant, mais lui étant en filière niçoise, j'en ai vu plein, je n'ai pas jamais compris.
Moi aussi, hier j'étais dans un bar un peu louche, d'un ami du champion de full contact de Jérôme Le Banner m'a envoyé, et le barman était niçois.
Qu'est-ce qui se passe avec Nice?
Comme on dit, hein, au stade, les Niçois sont là, hein, et ils sont toujours là, ils sont de partout. Je ne sais pas, là, je n'ai pas d'explication, je suis assez d'accord avec l'analyse de Ramdam, parce que je rencontre beaucoup de Niçois ici, effectivement.
Et des Niçois qui n'ont jamais vécu à Paris, t'imagines le choc, les mecs, ils viennent de leur petite ville de province.
Grande ville de Nice, attention.
Alors, excusez-moi, ils viennent de Nice. Ils arrivent ici, c'est géant, et puis après ils sont hyper snob avec les Parisiens qui croisent ici.
Est-ce qu'il y a la version mignon-mignon de Christian Estrosi? Il y a une peluche ou quelque chose qui l'incarnerait ici?
Non, nous avons failli avoir comme député Mariani, dans le même genre, dans la même famille, dans le même truc. Mais
député des Français de l'étranger?
Il a été député des gens de l'Asie, il a été jusqu'à hier. Ou avant-hier, je crois.
Alors, pour résumer, hein, mon grand tableau entrepreneur français ici, on a donc le culte du mignon, hein, la carrière de Chantal Goya et les Niçois à Tokyo. Marie, est-ce que vous en avez pour votre argent?
Oui, j'ai appris pas mal de choses inattendues.
Mais enfin, il faut vous dire quand même, Edouard, que dans la mesure où les Parisiens sont à Tokyo, il n'y a aucune raison que les Niçois n'y soient. pas.
François, est-ce qu'on peut parler de tentative de jeu de mots dans cette... Et je viens de comprendre que vous disiez Zachary va chez le dentiste à cause de la... du mot Carrie, je l'ai entendu 10 minutes après.
Moi aussi, je l'ai compris aussi beaucoup plus tard.
Vous êtes... Oui, j'avoue qu'on l'a compris bien plus tard. Merci.
Il y en a encore d'autres que vous n'êtes pas prêts de comprendre.
Avec grand plaisir. Et vous n'êtes pas prêts de les dire sur cette antenne non plus. Salut.
7h, 9h, plus près de toi.
7h, 9h, Edouard Baird.
Plus près de toi.
Plus près de toi, une émission extrêmement racoleuse.
Parce que, en fait, tu passes en CM2, là, c'est ça?
L'année prochaine, je suis en CM2.
Et c'est, donc, tu apprends des quelques phrases japonaises pour te débrouiller, par exemple? Quelle phrase, par exemple?
Je peux me présenter?
Oui.
Et je le dis?
Oui.
Watashi wa Nourdes.
Oui. Donc là, tu dis, je m'appelle Nour. Et ensuite, est-ce que tu as des phrases qui peuvent être utiles pour ton âge? C'est-à-dire... quels sont les numéros qui viennent de sortir à la roulette ou des phrases comme ça, ou quel cheval gagnant à Auteuil cette semaine? Donc, quelles sont les phrases utiles à 9 ans?
Je ne crois pas que ça va me servir.
Quelles phrases peuvent te servir? Est-ce que vous pouvez en rajouter un peu sur les glaces à la vanille? Donc, qu'est-ce que tu... Dis-moi des phrases d'autres que tu as apprises.
Par exemple, j'ai perdu ma Suica dans le métro.
Tu as perdu quoi?
Ma Suica dans le métro, c'est comme une passe Navigo.
Ah, mais alors tu dis comment?
Je sais pas.
Tu sais pas dire ça?
Ça pourrait être utile.
Mais tu sais pas dire que tu as perdu quelque chose? Où sont mes parents, non?
Non.
Dis-moi une phrase que tu sais dire comme ça, une question.
Je sais pas, moi... Koliwa Nandeska.
Ça veut dire quoi? Wedeska? Non. Qu'est-ce que c'est? Ouais, alors vas-y, alors joue-le maintenant. Tu vois tout à coup un monstre qui accompagne Chantal Goya qui est seul dans le métro et tu t'inquiètes et tu me le cries. Vas-y. Beaucoup plus inquiet que ça. Regarde, c'est un énorme lapin géant qui accompagne Chantal Goya pour son nouveau concert à Tokyo. Vas-y avec de la panique. Mais oui, il y a une vraie panique qui vient de se passer. On vient de voir là dans le métro japonais un lapin géant. Nour, tu apprends aussi des poèmes de La Fontaine ici. Il y a beaucoup d'enfants français au lycée français de...
Il y a des franco-japonais, des français, surtout des franco-japonais.
Des franco-japonais, ce sont des gens qui ont le corps séparé en deux. Le profil droit est très français, avec une baguette de pain, avec sur leur MP3 du Chantal Goya. Et la partie gauche écoute Clémentine et est habillée en rose fuchsia. Alors, on écoute ton poème, c'est quoi?
Le laboureur et ses enfants.
Le laboureur et ses enfants qui a été massacré ici même par Atmen Khelif, cet enfant de 44 ans. François, vous n'étiez pas là, c'était un moment très grave. On t'écoute.
Un riche laboureur sentant sa mort prochaine.
Ah non, non, excuse-moi. Je vais te donner ton générique d'abord.
Mesdames, messieurs, prenez garde à la poésie.
Un enfant, un poème.
On est très attachés au rituel et au jingle. Voilà, pardon de t'avoir interrompu, c'est à toi, Nour.
Le laboureur et ses enfants. Un riche laboureur sentant sa mort prochaine fit venir ses enfants, leur parla sans témoin. « Gardez-vous, leur dit-il, de vendre l'héritage que nous ont laissé nos parents. Un trésor est caché dedans. Je ne sais pas l'endroit, mais un peu de courage vous le fera trouver. Vous en viendrez à bout. Remuez votre champ dès qu'on aura fait l'outre. Creusez, fouillez, bêchez. Ne laissez nulle place où la main ne passe et repasse. Le père mort, les fils vous retournent le champ de ça, de là, partout, si bien qu'au bout de l'an, ils en rapporta davantage. D'argent plein de cachets, mais le père fut sage de leur montrer avant sa mort que le travail est un trésor. Jean de La Fontaine, 1621-1695.
Voilà, François, c'est Jean de La Fontaine est l'auteur et le chiffre qui a été donné après, ce sont l'année de naissance et de mort de Jean de La Fontaine. Hein.
D'accord, c'est pas sa plaque d'immatriculation.
Non, parce qu'il n'est pas motorisé, Jean de La Fontaine. Il vient par les transports publics ou par le métro, ne vous inquiétez pas. Je sens que vous êtes très à cheval sur les problèmes de voiture, surtout en période de pollution avec les plaques alternées. Je vous remercie. Nour, bravo. Tu as séché l'école aujourd'hui?
Oui.
Tu as dit quoi?
Que j'avais vomi.
Que tu avais vomi? Pardon, excusez-moi.
C'est un peu l'excuse de base où les gens n'osent plus poser de questions derrière. Oui, j'ai vomi, point.
Merci beaucoup. François, qu'est-ce que...
Alors, j'ai une toute petite question pour vous, Edouard. Oui. Parce que vous nous amusez ici à longueur d'année avec vos blagues sur les Japonais. Là, quand vous vous moquez d'eux, quand vous faites « Attends, content, hein, je prends des photos, hein, je mange des sushis !» Alors, ma question est, est-ce que ça, vous l'avez fait aux Japonais, votre imitation, et est-ce que ça les fait rire autant que nous ?
Oui. Et vous, quand vous partez en voyage au Sénégal ou au Tchad, fait « Oumba, hein ?» Hein, vous êtes là, et Banania et tout ça. Alors, je vais vous dire. Hein, le premier qui accuse l'autre de racisme a raison, et il a gagné. Merci beaucoup, François, en tout cas, pour cet apport que vous avez fait pour mon rapport avec le pays. Je vais donc rester dans ma chambre d'hôtel la semaine qui reste, barricadée, à me faire livrer des steaks frites et à regarder TV5 Monde. Merci, Nour.
Plus près de toi.
Plus près de toi.
Plus près de toi.
Des miaou, des wawa, des cote-cote-cote.
Tous les animaux de la ferme sont là.
Il paraît qu'ils font leur pain eux-mêmes.
7h, 9h.
Edouard Baird.
Et c'est l'heure des informations. Thierry Barret.
Stéphane Villeneuve est décédé à Mossoul. Le journaliste effectuait un reportage destiné au magazine Envoyé spécial sur France 2 la veille. Il avait été grièvement blessé par l'explosion d'un engin artisanal qui a coûté la vie à un autre journaliste, un journaliste kurde. Deux autres reporters, dont Samuel Forêt, qui travaillait pour Le Figaro, ont aussi été blessés. Des explosifs, une Kalachnikov, des armes de poing. L'homme qui a foncé sur un véhicule de la police hier après-midi sur les Champs-Élysées à Paris était équipé pour un carnage. Finalement, son acte n'a fait aucune victime, pas même un blessé. Lui, en revanche, il a été tué. Fiché S, détenteur d'un permis de port d'armes. Il vivait dans l'Essonne, en région parisienne. Quatre membres de sa famille ont été placés en garde à vue. C'est une tradition. Édouard Philippe a présenté la démission de son gouvernement au lendemain du second tour des législatives. Il a été reconduit dans ses fonctions. Il va donc former un nouveau gouvernement dont la composition sera rendue publique au plus tard demain 18h. Une chose est sûre et certaine, Richard Ferrand n'en sera pas. Le président de la République a demandé au ministre de la Cohésion des Territoires de quitter son poste pour briguer la présidence du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale. Rappelons que Richard Ferrand est sur la sellette depuis quelques semaines suite à des révélations sur un montage financier remontant à l'époque où il dirigeait les mutuelles de Bretagne. Donnée perdante dimanche soir, une candidate PS a finalement été donnée gagnante hier après recomptage des voix à Mayotte. La candidate PS était opposée à un candidat LR. Ce dernier avait été donné gagnant avec 12 voix d'avance. Résultat, le PS compte ce matin 30 députés au lieu de 29. Annoncé dimanche soir, et puis la droite compte 112 députés au lieu des 113 annoncés hier. Le FN se prépare à un bureau politique explosif. Aujourd'hui, le débat sur la transformation du parti et la ligne promet d'être vif. À noter que Jean-Marie Le Pen entend y participer, alors qu'il n'est pas invité. Il a prévu de faire le buzz en s'y rendant avec un huissier. Fruit sans doute du futur Brexit, dont les négociations ont débuté officiellement hier, 1363 Britanniques qui vivent en France ont demandé la nationalité française l'an dernier, contre seulement 385 en 2015. C'est une augmentation de 254%. L'étudiant américain rapatrié aux États-Unis dans le coma avec de graves lésions cérébrales après sa détention en Corée du Nord est décédé. Il avait été condamné à 15 ans de travaux forcés l'an dernier pour avoir tenté de dérober une affiche de propagande. 63 morts pour autant de blessés, c'est le bilan toujours provisoire de l'incendie qui ravage la région de Leiria. Au Portugal, 1000 pompiers continuent ce matin de lutter contre les flammes. Entre 30 et 35 degrés, ce sont les températures attendues aujourd'hui sur une grande partie du pays. Et encore, on parle de moyenne, hein. Souvent ce sera bien élevé, bien au-dessus des températures annoncées. Alors ça va mieux se passer près des côtes de la Manche et sur le littoral roussillon. Là, il va faire meilleur. 51 départements ont été placés en alerte orange canicule, 35 de plus qu'hier. Il faut s'attendre à des orages sur la région Centre-Val de Loire et la Normandie. C'est une annonce pleine de promesses. La NASA a présenté la découverte de 219 nouvelles exoplanètes potentielles. Parmi elles, 10 sont d'une taille proche de celle de la Terre, où l'eau pourrait hypothétiquement exister à l'état liquide et permettre la vie. Une exoplanète, hein, rappelons-le, c'est une planète qui se trouve en dehors de notre système solaire. Et puis l'Euro de basket féminin, ça se passe bien pour les Françaises qui se sont qualifiées pour les quarts de finale de la compétition. Elles ont battu les Grecs hier 70-63. Prochain match jeudi contre l'Ukraine ou la Slovénie. Les deux nations vont se rencontrer aujourd'hui.
Que ça fait un tout petit peu trop d'exoplanètes. Je vois pas l'intérêt d'en avoir autant.
Ouais, bah, après,
si
c'est
on doit
potentiel.
Les examiner les unes après les autres, ça va prendre un temps fou.
Ouais. Et tu sais que là, c'est pas beaucoup, 219. En fait, on a trouvé des plus de 1000.
Bah, voilà, bah, c'est pas trop. Ouais. Alors, je ne sais pas ce qui se passe au Japon, mais nous, on va aller dans la rue avec Jack. Qu'est-ce que vous faites maintenant?
Ouais, Rico, il est mort. Tu peux éteindre la porte. Rico, rien là. Ouais.
Oui, bonjour. Oui. Je suis avec Rico, ils sont en train de... Qu'est-ce que vous faites, Rico, exactement?
On est à la mairie de Paris et on constitue des jeux avec des troncs d'arbres qui ont été abattus pour cause sanitaire. Donc, dans les squares de Paris, on fait des jeux.
J'ai eu peur que vous étiez en train d'abattre un arbre. Mais...
Non, on recycle ces arbres qui ont été abattus pour cause sanitaire et on les ressort pour éviter qu'ils soient broyés. Et on fait des jeux, du mobilier urbain pour les enfants, les gens dans Paris.
Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on abat un arbre à Paris, ça devient un jeu pour enfants ?
Eh bien, quelques-uns arrivent à ressortir et on arrive à les ressortir du lot pour les redonner une deuxième vie.
Mais surtout, vous taillez tout ça à la tronçonneuse, parce que vous m'avez montré un arbre, et une table et des chaises à la tronçonneuse.
Tout est coupé avec des tronçonneuses, ça ne va pas en scierie, rien du tout. Tout est fait par les bûcherons du bois de Vincennes.
On confond toujours la scierie avec les scieries, c'est très gênant comme homonymie.
Oui.
Je comprenais pas pourquoi il y avait un risque que ça parte en scierie, mais il s'agit de l'endroit où on scie des choses.
Pour tronçonner, faire des planches, nous on fait tout avec les tronçonneuses.
On est sur quoi ? Sur du chêne ? Sur quoi ?
Alors, on a du chêne, du platane, de l'érable et du sophora.
Voilà. Mais quand ils sont taillés dans la longueur, comme ça, c'est pas la tronçonneuse, ça ?
Si, c'est avec une tronçonneuse. On adapte un outil sur le guide, ça s'appelle une gruminette. Et on coupe des planches. Une gruminette, on appelle ça, ouais.
Mais alors pour les enfants, ok, mais alors pour les chiens, alors comment ils vont faire maintenant ? Parce que c'est un vrai bordel.
Ah non, mais les chiens, ils peuvent monter dessus. Hein.
D'accord.
Certains s'en servent parce que ça... C'est comme les nouveaux jeux qu'on appelle pour les jeunes des parcours. Ça permet de faire des jeux d'équilibre, sauter, monter des marches, descendre.
C'est des jeux pas très rigolos quand même.
Bah si, c'est rigolo, ça donne l'équilibre. Et puis c'est éducatif. C'est éducatif parce qu'on inscrit sur certains, on met l'alphabet et qu'on grave dessus. Sur tous les troncs, on marque le nom de chaque arbre. Ça leur permet aux gens de reconnaître les essences et de voir à quoi ressemble un platane, un chêne, un érable, un robinier.
On pourrait mettre les verbes irréguliers en anglais aussi.
Ah ouais, mais alors là, on n'est que bûcherons, nous.
Je viens de prendre cette conversation en route. Bonjour, monsieur. Ce mélange de rigolo et d'éducatif, est-ce que ça n'est pas l'avenir pour tous ?
Bah si, c'est bien. Et puis, en plus, c'est écologique, puisque... On recycle ces arbres, on leur redonne une deuxième vie et quand au bout d'une dizaine d'années le jeu devient un peu usé de par le temps, il repart dans une zone où ils sont broyés et ils sont rétalés dans les allées, dans les massifs d'arbustes parisiens.
Écoute, bûcheron, arrête un peu le bras. Ce ne sont pas des bois que tu jettes à bas.
Ne vois-tu pas le sang, lequel dégoûte à force des nymphes qui vivaient dessous la dure écorce.
Merci.
Ah,
alors,
c'est un hommage poète, hein. C'est pas de nous, monsieur. C'est ce qui me reste de l'école.
Voilà. Bah non, nous on est plus simple, plus succinct.
Pas du tout. Nous, il nous reste des petits souvenirs de l'école. Merci, monsieur, en tout cas.
Merci bien. Bonne journée.
Une belle journée et quelqu'un qui a dit voilà, il est temps pour lui de nous laisser. Très souvent, moi, il m'arrive de dire voilà. C'est quand j'entends. Ah, ça c'est bien.
C'est la scie.
Allez, salut.
Salut. Voilà.
7h-9h, plus près de toi.
Plus près de toi. 7h-9h.
2 heures d'émission, mais c'est beaucoup trop court.
7h-9h, plus près de toi.
On est mardi. Mardi, c'est pas le meilleur jour de la semaine. Heureusement, on a inventé quelque chose pour le rendre beaucoup plus beau. C'est l'animal du mardi.
L'animal du mardi.
C'est vous qui faites votre propre jingle, en fait, François.
Ben oui. Alors, tous les auditeurs s'y attendaient. L'animal du mardi qui vient clôturer royalement cette saison radiophonique, c'est l'homme. Vaste sujet qu'il est difficile d'épuiser en quelques minutes. Aussi, nous focaliserons-nous sur un seul et unique chapitre, le mode de reproduction. Il coexiste chez l'homme deux modes de reproduction bien distincts, le papier calque et la photocopieuse. Deux modes dont chacun doit peser à l'aune de son idiosyncrasie les avantages et les inconvénients. La technique de reproduction ancestrale du papier calque est plus rustique, mais elle donne des résultats dans 100% des cas. La photocopieuse, en revanche, si elle est capable à l'occasion de reproductions multiples, est régulièrement affligée de stérilité, soit qu'elle ne soit pas branchée, soit qu'elle ait été trop souvent et trop brutalement sollicitée. Du point de vue économique, le coût du papier calque est environ 300 fois inférieur au coût de la photocopieuse. C'est un élément à prendre en compte, de même que cet argument qui vous ira droit au cœur, Edouard, selon lequel, avec la photocopieuse, l'homme abandonne l'initiative à une technologie qui lui échappe, alors qu'avec le papier calque, il reste en contact avec la nature et avec le réel, dans le cadre d'une démarche concrète qui perpétue l'esprit artisanal, pour ne pas dire artistique. Du reste, pour que vous puissiez me situer au regard des problématiques de reproduction, je vous informe que ma rubrique de ce matin a été écrite sur un bureau en chêne, à la plume d'oie, avec de l'encre de sèche.
Merci infiniment François. Est-ce que vous êtes alarmiste ? Est-ce que vous avez l'impression que l'homme reproduit de moins en moins ?
Je crains que ce soit le contraire, Edouard.
Mais on pourrait imaginer lier les deux modes de production, papier calque et photocopieuse.
Et comment feriez-vous ?
On peut commencer par un papier calque et ensuite aller vers la photocopieuse.
Elle est coquine, celle-là, dites donc.
Méfiez-vous de l'imagination, vous savez, Marie. L'imagination a fait beaucoup de mal sur cette terre. Avancez tout droit, traversez où on vous dit et arrêtez avec votre imagination. D'accord ?
Très bien, pardon.
C'est bien compris.
Je le ferai plus.
François, merci pour
C'était le dernier animal.
Ben oui.
Ouais. Ça vous fait quoi ?
Ah ben, ça fait, c'est un long cortège darwinien qui passe devant nous et qui nous échappe.
Et à qui vous faites coucou de la main, bien sûr.
Vous savez, la vie nous file entre les doigts, parfois.
Bien entendu, le temps passe avec son cortège, bien sûr, de souvenirs maléfiques ou joyeux, bien entendu.
Le temps passe et fauche à l'aveuglette.
Bien sûr, le temps est assassin et emporte avec lui le rire des enfants. Bien entendu, bien entendu. Salut.
Et Jacqueline Taïeb qui ment à l'antenne puisqu'il n'est pas 7h du matin, il est 8h18 ici à Paris et 15h18 là-bas à Tokyo.
Oui, mais attention, elle ne mentait peut-être pas le jour où elle a enregistré ce disque. Vous ne pouvez pas accuser Marie Missé les gens comme ça. Oui, renseignez-vous sur les heures d'enregistrement de ce disque.
Ça m'étonnerait qu'elle l'ait fait à 7h du matin, si vous voulez, mon avis. Mais bon, c'est vrai que c'est présomption.
Je suis avec Lionel Dersault, qui est un grand spécialiste, un connaisseur de Tokyo, un flâneur, guide, poète. Il a un blog très étonnant qui s'appelle un journal de résidence au Japon, sur lequel il y a des intitulés comme le couloir d'Alice à Minami Ikebukuro, une maison dévastée au Kubo, l'hippocampe noir du Teto Design Village, flâner au 21e siècle à Tokyo. Il y a comme ça plein de thèmes, plein de visites possibles, plein d'approches différentes, étranges de cette ville. Lionel, bonjour. Lionel Dersault, qu'est-ce qu'il y a de si fascinant dans cette ville de Tokyo aujourd'hui ?
Bonjour. Ce qui est fascinant, c'est d'appliquer la flânerie, qui est une activité historiquement européenne, à un territoire qui ne l'est pas, où on est, n'est-ce pas ? On n'est pas en Europe. Et dès lors qu'on applique ce type de démarche, de lecture, de rêverie, on va découvrir beaucoup de choses qui ne sont pas dans les guides, très souvent qui sont à côté. Il suffit de se décaler un tout petit peu. Donc c'est un moyen de découverte pour des visiteurs. Mais moi, je ne suis pas un visiteur. Ça fait tout de même un certain temps que j'habite à Tokyo. J'ai 33 ans de Tokyo. Donc ma démarche, tous les sens du terme de la démarche, est bien entendu différente. Et la flânerie, c'est un exercice solitaire. C'est une pratique solitaire. Et ce qui vient après la flânerie, ça va être la promenade. Et la promenade, ça se fait à deux au moins. Et la promenade, c'est un partage. Donc la flânerie sert à nourrir la promenade pour qui va être sensible au type de promenade, d'excursion, d'évasion que je propose à Tokyo, pas loin de Tokyo, et éventuellement assez loin de Tokyo.
Alors vous parlez de flânerie, vous dites que la flânerie, c'est occidental, ça n'est pas une habitude japonaise, cette idée. C'est une marche sans but, c'est de se laisser porter par ses pas.
Non, ce n'est pas une marche sans but et c'est certainement pas japonais. En tout cas, après 33 ans de flânerie à Tokyo, je flânais avant à Paris essentiellement. Donc ce comportement n'est pas la résultante de ma résidence ici. Mais je vois autour de moi des comportements de marcheurs qui sont totalement différents. Et ça, c'est lié, je pense, à la manière où on occupe l'espace. Un espace en mobilité, puisque n'est-ce pas ? À la base, on marche. Et il y a beaucoup de raisons de marcher dans la ville ou ailleurs qui sont pas, qui n'ont rien à voir avec la flânerie. Quand vous allez au travail, vous n'êtes certainement pas en mode flânerie, ce qui est bien dommage, mais on n'a pas le choix. Moi, ma position sociale, disons, est différente, qui me permet par moment de pratiquer et d'affiner la pratique de la flânerie, encore une fois, pour nourrir des possibilités découvertes que je veux partager parce que je pense qu'elles sont elles font plaisir.
Est-ce qu'il y a dans mes préjugés une vraie culture du beau à Tokyo, du beau partout, dans les petites choses comme dans les grandes?
On est, et pas uniquement à Tokyo, c'est bien connu dans une culture, en tout cas contemporaine. On est dans une contemporanéité où il faut tout de même mettre des œillères. On n'est pas dans les panoramas fantastiques à l'américaine. Et sur cette condition-là, il faut absolument trouver ce que j'appelle des grandes beautés. D'autant plus dans cette ville qui en a, mais quand on pense à des panoramas justement, on peut être un peu frustré. Maintenant, il faut, et ça je recommande à tout visiteur ou tout résident, il faut critiquer. Et critiquer, ça veut dire apposer un sceau positif, négatif, et il y a beaucoup de niveaux de gris entre sur ce qu'on voit.
Vous parlez de grain de beauté, ça veut dire que c'est un sens du détail. Quand on marche dans Tokyo par rapport donc à des villes plus de panorama ou comme certaines villes américaines ou des vertiges horizontaux, ici il faut savoir s'arrêter sur des petites choses.
D'autant plus qu'on a affaire à une architecture particulière qui n'est pas spécifique à Tokyo ni au Japon, parce que on retrouve ce type d'architecture d'abord moderne passe-partout ailleurs. Mais on a surtout affaire à une sorte de cacophonie visuelle qui est aussi une source de plaisir. Hein, il ne faut pas non plus tout négativer, qui est aussi une sorte de plaisir. Mais on a besoin par moment de se déconnecter de ces choses-là. Et il se trouve qu'on peut se déconnecter de ces choses-là extrêmement facilement à condition d'avoir une certaine connaissance du territoire. On ne peut pas connaître tout Tokyo. Tokyo est bien trop grand pour une seule vie, même deux, je pense. Mais on doit appliquer, pour trouver ces grandes beautés, des stratégies de déplacement, d'observation des signes dans le paysage, voire aussi dans la démarche des gens qu'on croise. On doit appliquer des stratégies qui ont rapport avec la flânerie. Même si je ne suis pas un chercheur, un intellectuel dans la flânerie.
C'est étonnant ce que vous dites, par exemple. Donc, vous dites des signes, est-ce qu'il faut se laisser porter? On suit des gens, on part au hasard, on divague, on fait une sorte d'école buissonnière. Donnez-nous des exemples, par exemple.
Typiquement, par exemple, actuellement, je suis totalement accro à un tout petit territoire qui se trouve à 10 minutes d'un des centres de Tokyo. Qui dit centre de Tokyo, je parle d'un pluriel ici. Ça veut dire d'abord concentration humaine importante. Concentration humaine importante qui se déplace. Tokyo est un lieu où on se déplace. Typiquement, vous n'avez pas encore le temps de voir ça, Edouard, mais il n'y a pas de bon public. L'individu sur ses deux pattes, par définition, se déplace. Et donc, il va falloir trouver des destinations. Mais avant de trouver des destinations, il va falloir trouver des cheminements. Et par exemple, il y a Ikebukuro qui est extrêmement touffu humainement, architecturalement de même. Et à 10 minutes de là, je vous amène ailleurs. C'est garanti, mais totalement ailleurs. En fait, je vous amène dans un endroit où on prend une photo, on écrit « Bon baiser de Kyoto », c'est à 500 km d'ici, et on y croit.
C'est l'équivalent à Paris d'entrer dans une impasse, d'ouvrir une porte cochère. C'est comme les arrière-cours dans les villes françaises ou dans les traboules à Lyon. Tout à coup, on pousse une porte, on est ailleurs.
Absolument, absolument. Et au-delà, c'est européen. Moi, je me rappelle de cours aussi à Budapest. Ici, on n'est pas dans la culture de la cour, mais ce sont des échappatoires. Donc, j'offre des échappées belles. Mais d'abord, pour les trouver belles, il faut que je le constate par moi-même. Et ça, c'est la pratique de la flânerie.
C'est formidable. Alors, moi, je vais vous suivre. Ça s'appelle la journée. On peut tout à fait aller marcher dans Tokyo avec Lionel Derso. Comment on peut faire ça avec vous? Comment on vous joint?
on me trouve sur Internet parce que je suis unique au niveau de mon nom en tout cas. Et puis après, il y a tous les moyens pour entrer en contact avec moi et on va discuter puisque je ne fais rien de pré-packagé. C'est uniquement à la demande et uniquement sur mesure.
Voilà, donc on peut, voilà, un marcheur dans Tokyo, un flâneur, Lionel Derso. Merci Lionel.
Merci.
7h, 9h, plus près de toi. Eva, plus près de toi.
7h, 9h.
Édouard Baird, 7h, 9h, à mon avis, il ne fait pas ça pour rien.
Oui. Bonjour Thierry Paret, qu'est-ce que vous nous proposez à 8h30?
Oh, j'ai des infos, un petit rappel de titre, mais j'aimerais bien qu'on parle des toilettes japonaises, parce que c'est quand même assez exceptionnel comme, non,
on
comme endroit.
On en parlera après.
Oui, ouais, bien sûr, après, je pense qu'après, c'est bien.
Est-ce qu'on peut juste savoir si vous avez des petits chaussons de toilette? Parce que normalement, il y en a.
Qu'est-ce que c'est que des chaussons de toilette?
Et bah, il paraît qu'au Japon, quand tu rentres en toilette, il y a des chaussons de toilette.
Du Japon. Stéphane Chapuis, c'est quoi des chaussons de toilette?
Ah bah, c'est des chaussons qui sont destinés à rentrer dans les toilettes avec des chaussons. Donc en général, dans les maisons japonaises, on se balade en chaussettes, voire en pantoufles, puisqu'on laisse les chaussures à l'entrée. Et pour les toilettes, en plus, on a des chaussons dédiés aux toilettes. Voilà.
Je ne dis pas des bêtises. Hein.
À faire avec des chaussons aux pieds. Et on essaye de ne pas ressortir des toilettes en oubliant ses chaussons, parce que bien sûr, si on traverse la maison avec ses chaussons
toilettes,
c'est très mal vu.
Tout le monde va se préparer.
On mettra ça juste après le basket à la fin du journal. À tout de suite.
Stéphane Villeneuve n'a pas survécu à ses blessures. Le journaliste français qui effectuait un reportage à Mossoul en Irak est décédé. Il avait été grièvement blessé par l'explosion d'une mine la veille. Le conflit en Irak a fait 26 morts parmi les journalistes depuis 2014. Des bonbonnes de gaz, des explosifs, une kalachnikov, des armes de poing. Bref, l'homme qui a foncé sur un véhicule de la police hier après-midi sur les Champs-Élysées à Paris était équipé pour un carnage. Finalement, son acte n'a fait aucune victime, pas même un blessé. Lui, en revanche, a été tué. Fiché S, détenteur d'un permis de port d'armes. Il vivait dans l'Essonne, en région parisienne, et quatre membres de sa famille ont été placés en garde à vue. Édouard Philippe a présenté la démission de son gouvernement au lendemain du second tour des élections législatives. Il a été reconduit dans ses fonctions. Il va donc former un nouveau gouvernement, dont la composition sera rendue publique au plus tard demain 18h. Une chose est sûre et certaine, Richard Ferrand n'en sera pas. Le président de la République a demandé au ministre de la Cohésion des Territoires de quitter son poste pour briguer la présidence du groupe La République En Marche à l'Assemblée Nationale. Le FN qui se prépare à un bureau politique explosif aujourd'hui. Le débat sur la transformation du parti et la ligne promet d'être vif. À noter que Jean-Marie Le Pen entend y participer. Alors qu'il n'est pas invité, il a prévu de faire le buzz en s'y rendant avec un huissier. L'étudiant américain rapatrié aux États-Unis dans le coma avec de graves lésions cérébrales après sa détention en Corée du Nord est décédé. Il avait été condamné à 15 ans de travaux forcés l'an dernier pour avoir tenté de dérober une affiche de propagande. 63 morts pour autant de blessés, c'est le bilan toujours provisoire de l'incendie qui ravage la région de Leiria au Portugal. 1000 pompiers continuent ce matin de lutter contre les flammes. Entre 30 et 35 degrés, ce sont les températures attendues aujourd'hui sur une grande partie du pays, sauf près des côtes de la Manche et sur le littoral du Roussillon. 51 départements ont été placés en alerte orange canicule, 35 de plus qu'hier. Et il faut s'attendre, attention, à des orages sur la région Centre-Val-de-Loire et la Normandie. Puis l'Euro de basket féminin avec les Françaises qui se qualifient pour les quarts de finale.
J'ai pas compris, Edouard. Pardon, le type qui a foncé sur les policiers aux Champs-Élysées était à la fois fiché S et il avait un permis de port d'armes.
Voilà, tout à fait. Alors c'est un permis qu'on renouvelle tous les 5 ans, donc je pense qu'il a été noté fiché S après avoir obtenu ce permis. Je sais pas trop le détail du truc.
Il y a une faille, quoi.
Mais il y a une faille, sans doute, il y a une faille. D'ailleurs, ça fait polémique ce matin, évidemment.
Mettez quelque chose de la musique, là, j'ai pas envie de parler de toilettes japonaises tout de suite, après tout ça. À tout de suite. Allô?
Bon, je suis clairement pas sur le coup, là, je suis désolé. Ici, la tour de contrôle. J'avais prévu de contacter Jack souvent.
On avait prévu de parler à Jack.
Ouais. Snoop Dogg, alors. I love you,
though. Snoop Dogg, qui fait de la country, comme quoi tout arrive.
Non, moi, c'est vraiment urbain. Moi, ça m'amuse de voir des petites rues. Des
gens. Et ça, c'est Edouard Baird qui parle à Tokyo. Et on rejoint Jack dans la rue.
Ouais, moi, je suis avec Guy. Guy, 85 ans, on est sur le banc, on est à l'ombre. C'est bien, là.
Il fait sacrément chaud.
Bien sûr, mais on va bronzer à l'ombre aujourd'hui.
Votre journée, là, aujourd'hui, ça va être quoi, Guy?
Ah ben là, je suis chez Montoubi. Ensuite, je reprends le bus. Et je vais faire mes courses.
Est-ce que dans le bus, vous demandez votre place à des jeunes qui sont assis? Vous les faites se lever?
Non, moi, je les laisse tranquilles.
Vous êtes un vaillant?
Oui, oui, debout, ça ne me dérange pas.
Et alors, on parlait tout à l'heure de la radio. Vous écoutiez la radio depuis 70 ans, là, en 1949, au moment des repas?
Oui, au moment des repas, là, on écoutait ça de midi et demi à 1h, à 13h. Ouais.
Et au boulot aussi?
Qu'est-ce que vous avez écouté depuis 70 ans à la radio? Quel programme vous vous rappelez?
Ah oui, ben, je disais au monsieur là, qu'il y avait l'émission de Zapimax.
Zapimax, oui.
Vous rappelez?
Alors moi, pas bien, parce que on a, bon, même si je suis de votre tranche d'âge. Et ça faisait comment? Il y avait un jiggle, ça ressemblait à quoi? Essayez de nous faire un peu l'émission de Zapimax.
C'était un truc de questions, comme...
Comme le jeu des 1000 francs?
Oui, je vais peut-être beaucoup bien m'en rappeler, mais c'était un genre qui avait y a un speaker qui posait des questions à quelqu'un et pour qu'il réponde. C'était pour les shampoings d'op.
Oui, les shampoings d'op, on gagnait un shampoing. Ensuite, il s'est shampouiné, c'est devenu Julien Lepers. Les années d'après, il s'est fait refaire là. Et dites-moi, il y avait des feuilletons aussi, il y avait la famille du raton, tout ça, vous avez connu
Jean-Cartier avec, non, il y avait sur le banc, à 1h20, avec Jean Zorza.
Ah, oui, ça c'était à 1h20.
Ça s'appelait sur le banc avec Jean Zorza.
Ah ben là, vous, c'est pas mal, on pourrait relancer ça avec vous et Jacques Souban, vous êtes sur le banc. Et Maurice Birot, c'était une star de la radio aussi, Bibi, Maurice Birot, vous avez connu?
Je ne me rappelle plus bien des noms. Il y avait, je disais à monsieur, il y avait monsieur 100 000 volts.
Ah bah c'est Gilbert Bécaud, ça.
Ah, ça. Il y avait aussi, il y avait un 5 minutes d'accordéon. Ah ouais. C'était les fourrures Brunswick.
Ah, vous vous rappelez bien les pubs, vous vous rappelez bien. Ça marche la pub à la radio, parce que vous vous rappelez plus les partenaires publicitaires que les émissions elles-mêmes. Alors j'avais les shampoings d'op, ensuite j'avais les fourrures Brunswick.
Ouais, il y avait tout ça.
C'est quoi vos pubs préférées, Guy?
Moi j'aimais bien Zapimax, parce qu'il posait des questions un peu à la con.
Vous aimez bien la connerie, quoi.
Oh, je me rappelle plus bien, parce qu'il y a tellement longtemps, je me rappelle plus, mais on disait tiens, d'accord, des questions à la con.
Il y avait le mec de Nova, là, à Baer, là, le matin aussi, qui disait des conneries.
Oh, c'était marrant, quoi. On ne fait pas, parce que... C'était ça tous les jours, alors on ne le fait pas.
Et vous avez arrêté alors d'écouter la radio?
Oh non, j'écoute toujours Radio Luxembourg.
RTL?
Oui.
Très bien.
Quand je faisais mon service en Allemagne, on avait RTL aussi. C'était à cette époque-là, c'était Radio Luxembourg. Et il y avait des copains qui écoutaient Europe numéro 1.
Ah, c'était aussi. Chacun, il y avait chacun sa radio, quoi.
Oh, on prenait que ça en Allemagne. On avait un poste de radio, alors les copains s'arrangeaient pour que tout le monde écoute son émission, quoi.
C'était quelle année, ça?
Quand j'étais en Allemagne, c'était en 54.
Donc vous avez aidé à la reconstruction, d'Allemagne, Guy?
Non, j'étais trop fion.
Oui, mais enfin, alors qu'est-ce qu'on faisait après-guerre en Allemagne en 54?
On était dans l'armée d'occupation.
Oui.
Puis après, on est parti en Algérie.
Ah oui.
En 50, je suis parti. J'ai fait 30 mois de service.
C'était dans quel état l'Allemagne en 54?
Ça construisait, ça bossait plus qu'en France. Hein. Je peux le dire. J'ai vu, ils montaient des bâtiments à une vitesse effroyable à cette époque-là. Travaillaient de nuit et jour. En vrai. J'étais à Baden-Baden.
Avec Massu?
Ah non, moi, j'étais pas à Massu, j'étais dans les tringlots.
Ah oui, je m'en rappelle. Mais alors, vous, qu'est-ce que faisait l'armée française quand on était l'armée d'occupation française en 54? Qu'est-ce qu'on faisait, en fait?
Bon, ben, on faisait son service. Moi, j'étais à la 41e QG, à Badenos. Et puis, j'étais dans un peloton de la circulation routière. Alors, j'avais un poste, tous les deux heures, on me remplaçait, quoi. C'était ça, l'armée.
C'est quoi? C'est des bons, c'est des mauvais souvenirs, c'est quoi?
Bon, remarquez que c'était des bons, parce que j'avais des copains qui étaient chauffeurs d'un colonel ou d'un général, et le soir, on sortait en bagnole, on allait boire une bière dans un gaston. C'était la bonne vie.
C'était mixte, l'armée, à l'époque?
Ah non, il n'y avait pas encore de femmes à cette époque-là. Il y avait les PFAT, qu'on appelait les PFAT, c'était l'armée féminine, mais il était à part. Il avait une caserne à part.
Donc on faisait le mur?
Non, on sortait.
Allons, Guy, mais si.
Mais non.
Oh, dis donc.
Pourquoi que je faisais le mur?
Je vous vois très bien en train de poser votre petit calot, dire aux copains, excusez-moi les gars, je vais me balader, je vais me griller une cibiche de l'autre côté des murailles, et puis en train d'escalader chez les gonzesses. Je vois bien, Guy.
Non. Non, on avait quartier libre jusqu'à 21h.
Ah, elle était belle, l'occupation française à Baden-Baden en 54. Hein? Il y a Général Massu qui a dit, eh ben, mon colon, on n'est pas rendu. Bon, Guy, je vous laisse. Bon rendez-vous chez Toubib, bon, on vous embrasse, Guy.
Allez, au revoir.
Salut.
De 7h à 9h, j'écoute Plus près de toi.
Plus près de toi.
Oh, il fait une chaleur dans cette émission.
Et on est de retour à Tokyo avec Edouard Baird et je crois Stéphane. C'est ça, Stéphane Chapuis?
En effet, Marie-Mise, on était depuis tout à l'heure avec Stéphane Chapuis, qui est à la fois tourneur musical, organisateur de concerts, qui nous disait que depuis Chantal Goya, c'était difficile de faire tourner les artistes ici, même s'il a fait venir M, La Femme, Julien Doré, Vianney. Et il est aussi l'auteur, Stéphane Chapuis, de La cuisine japonaise sans sushi ou presque, un livre qui va sortir bientôt là en octobre. C'est quoi l'idée? C'est de mieux nous faire découvrir d'autres cuisines, Stéphane Chapuis?
Alors, c'est d'élargir son horizon culinaire sur la cuisine japonaise, c'est-à-dire qu'il y a une vie après les sushis, à savoir que au Japon, on cuisine aussi à la maison et qu'il y a des recettes très simples à faire. Et donc, l'idée de ce livre, c'est de proposer 12 recettes très faciles à faire à la maison à partir du moment où vous possédez les 5 condiments de base que sont l'huile de sésame, le dashi, le kurozu, c'est-à-dire le vinaigre de riz, voilà. Et
là, il y en a
il
que
en
3,
manque deux quand même.
Là, il y a tout de suite une énorme arnaque.
Et je crois qu'il y a même un trou de mémoire qui...
C'est très beau, c'est très humain. Ça montre la fragilité, ça montre le côté artisanal de cette émission qui échappait jusque là aux gens.
On a le mirin aussi, qui est une 4. Sorte d'alcool. 4 et puis je ne sais plus.
Oui, ça me rappelle cette recette du poulet au saké. Vous achetez une bouteille de saké et un poulet, vous mettez le poulet au four, vous buvez la bouteille de saké. Et le poulet, merde, je l'ai oublié. Voilà, ce sont des plats traditionnels. On en parlera mieux avec vous, Stéphane, parce que vous allez revenir tous les jours. Vous êtes notre correspondant ici. La cuisine japonaise sans sushi ou presque, avec 5 ingrédients seulement qu'on a oubliés.
Est-ce que vous allez jouer au jeu de François Rollin?
Je ne connais pas le jeu, mais on va voir.
Est-ce qu'on est invité au jeu?
Je crois que vous ne pouvez pas, en fait.
Bah écoutez, Edouard, nous avons terminé la saison à feu d'artifice en ce qui concerne l'animal du mardi, hein, il y a quelques minutes. Et ben, même chose pour le grand jeu du mardi, ça va éclabousser dans tous les azimuts. Alors, jusqu'ici, pour répondre à votre question, nous avons joué parfois avec les auditeurs, parfois avec les animateurs, avec vous. Et bien, ce matin, je joue tout seul. Avec une batterie de questions, une batterie de questions très difficiles, des questions de culture générale. Alors c'est parti. Quel est l'auteur de la pièce La Bagatelle? Marcel Achard ou Jean Anouilh? Oh, je pense qu'il s'agit de Marcel Achard. Excellente réponse. Quelle est la capitale du Zimbabwe? Lusaka ou Harare? Lusaka, c'est la Zambie, donc je vais répondre Harare. Bonne réponse. Quel était l'instrument de prédilection de Luigi Boccherini? Le violoncelle ou le piano? Le violoncelle. Réponse très rapide. Bravo. Le Khremchik est un affluent de l'Yenisseï ou de la Volga? De l'Yenisseï, bien sûr. Bonne réponse. La rôtisserie de la reine Pédo, qui est un roman de Jules Renard ou d'Anatole France? Ah, bah là, j'ai un petit doute, mais je pense qu'il s'agit d'Anatole France. Bonne réponse. 5e et dernière question. question. Où est né le peintre Léonard de Vinci? À Florence ou à Vinci? Ah bah, à Vinci, comme son nom l'indique. Bonne réponse. 5 bonnes réponses sur 5, c'est gagné. Bravo François, vous gagnez un an d'abonnement à Radio Nova. Oh, c'est trop gentil. Mais non, c'est bien normal. Vous l'avez amplement mérité. Encore bravo pour votre culture et à l'année prochaine. Ah oui, et bah pourquoi pas. Et bah c'est tout le mal que je vous souhaite. À vous Cognac J.
Merci François, c'est très beau de se suffire à soi-même et de faire ça en public. C'est à la fois de l'autosuffisance et de l'exhibitionnisme de très belle qualité. Et puis je rappelle que ces questions, vous ne les avez eues qu'il y a une semaine, donc il a fallu très peu de temps pour les potasser. Merci François.
Merci Edouard, je crois qu'on va, enchaîner sur le live de l'Homme-Pâle. L'Homme-Pâle qui est dans la verrière de Radio Nova, il y a déjà un public extraordinaire. Je crois que Rudy nous entend peut-être.
Oui Marie, oui, je suis en duplex de la verrière où il y a un monde fou, effectivement, pour accueillir l'Homme-Pâle. Je vous dis quelques mots sur l'Homme-Pâle, un peu moins de 10 ans.
Je rappelle, vous êtes sous la verrière.
Sous la verrière.
Les gens sont en studio, nous on est dans une chambre d'hôtel à Tokyo.
C'est merveilleux.
Pendant que le directeur frappe pour qu'on la règle,
c'est
tout ça est magnifique.
C'est très émouvant. C'est très émouvant. Un peu moins de 10 ans après avoir commencé à gratter ses toutes premières rimes sur un coin de board ou sur un coin de bar, l'Homme-Pâle, rappeur, skater, estampillé 13e arrondissement, a selon ses mots réussi à atteindre ce qu'il visait vraiment. 2 ans de travail pour caler enfin son premier album intitulé Flip. Mais de quel genre de flip nous parle l'Homme-Pâle? Est-ce un hommage qui n'est d'ailleurs pas le seul au skate, pratiqué toute son enfance et dont le flip est la figure de base, celle parmi les plus dures à atteindre, celle qui requiert un niveau d'abnégation totale, mais dont tout découle une fois qu'elle est maîtrisée? Ou est-ce que l'Homme-Pâle nous parle là de ses flips quotidiens, de cette flippante et froide lucidité que nous retrouvons dans ses textes, dans les 16 mesures des 15 morceaux de cet album? Si vous souhaitez connaître la réponse, alors un seul conseil, ruez-vous dès que possible sur ce disque qui ne va pas tarder à sortir, un album dans lequel tout est vérité, parfois malheureusement un album hautement personnel dans lequel Antoine ou l'Homme-Pâle, selon les morceaux, il raconte tout, se raconte totalement avec un art du storytelling absolument maîtrisé. Si nous avions été en 1995, année ô combien symbolique, cela aurait été la bande-son parfaite d'un film d'Harmony Korine. Mais nous sommes en 2017 et on se dit que le rap français a tout à gagner à suivre un mec aussi pâle. Encore bravo pour cette couverture d'album qui est absolument magnifique, de loin la meilleure de l'année. Bienvenue l'Homme-Pâle, tu es accompagné à la guitare de Pierrick Devin. Tu vas nous interpréter un premier morceau qui est Ray Liotta, qui tourne en boucle sur l'antenne de Nova depuis quelques jours.
Exact.
Bienvenue, messieurs, c'est à vous.
Bonjour, bonjour. Exact. On se trompe tout le temps. Hey. Hey, 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 hey. Hein. Ça veut dire quoi le bien? Je suis né, j'ai pas tout compris. C'est pas gentil d'être méchant, mais c'est plus rentable que le bonheur des gens. La misère ça impressionne moins qu'un salto, ça les ennuie comme le goût de l'eau plate. Ah ce monde c'est une bonne blague. Je lis les nouvelles pour me faire les abdos. Tu vas trop vite, tu perds beaucoup de points. Mais si t'es spontané t'es dans le vrai. Un gros mot qui dérape en coup de poing, un bisou qui dérape en le vrai. T'aimes te battre quand tu sors, même si t'as le regard de Ray Liotta. Ton corps peut finir en désordre, comme les phrases de Maître Yoda. Mais on s'habitue, bientôt ça me fait plus d'effet. Tu le sais, on s'habitue, oh non, bientôt ça me fait plus d'effet. Mais on s'habitue, bientôt ça me fait plus d'effet. Tu le sais, on s'habitue, oh non, bientôt ça me fait plus d'effet. Hey, hey, ça me fait plus d'effet. Hey, hey, ça me fait plus d'effet. Les prochaines années sont glauques, chacun se bat pour son clan. Une fille bien dans la maison close, une pute dans la maison blanche. Je suis né, j'ai pas tout, hein, ok. Je suis né, j'ai pas tout compris. Si tu cherches des sensations fortes, la mort peut te faire un bon prix. Les pauvres gentils désespèrent, les méchants les ont laissés espérer. Mais pour eux c'est dans la poche, comme une amende réglée avec des espèces. Personne ne veut perdre son poste, pour elle dinero, pour elle papel. Elle est douée mais elle est pas belle. Elle va devoir convaincre son boss. Aïe. Mais on s'habitue, bientôt ça me fait plus d'effet. Tu le sais, on s'habitue. Oh non, bientôt ça me fait plus d'effet. Mais on s'habitue, bientôt ça me fait plus d'effet. Tu le sais, on s'habitue. Oh non, bientôt ça me fait plus d'effet. Hey, hey, ça me fait plus d'effet. Hey, hey, ça me fait plus d'effet. Paraît que la vie sur terre c'est un échantillon. L'enfer est flambant neuf, le paradis en chantier. Même si t'es gentil, on t'oubliera comme le premier i de suicide. Les crimes, les guerres, le passé, c'est pas mon problème. Mais la suite, si. Je viens de naître, j'ai rien demandé, mais je vais me faire plaisir maintenant que je suis ici. Mais on s'habitue, bientôt ça me fait plus d'effet. Tu le sais, on s'habitue, oh non, bientôt ça me fait plus d'effet. Mais on s'habitue, bientôt ça me fait plus d'effet. Tu le sais, on s'habitue, oh non, bientôt ça me fait plus d'effet. Hey, hey, 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 ça me fait plus d'effet. Ça me fait plus d'effet.
Edouard ?
Oui.
On applaudit ? Oui ? Vous êtes encore là ?
Oui, j'ai aimé cette phrase. On nous oubliera comme le premier i de suicide. C'est bien l'homme pâle. Merci beaucoup.
On se retrouve
l'axe Paris-Tokyo qu'on est en train de créer à demain matin. Merci.
À demain. Au revoir, François.
On vous embrasse.
7h, 9h, plus près de toi.
Edouard Baird.
7h, 9h.
Plus près de toi.
Point final.